les musiciens, hein, la famille Blanc, parce que c'est une famille, ils n'étaient pas tous là, mais sur l'estrade, mais ils sont là. Et ils ont pu exprimer ce que le Seigneur a ces chants de Noël, et nous remercions le Seigneur d'être au milieu de nous, hein, c'est une grâce, de pouvoir exprimer ces réalités. Et on voit dans ses paroles des choses assez remarquables. Alors, demain on va fêter Noël, c'est l'incarnation de celui que la Bible appelle le Messie, le Fils de Dieu. Hein, c'est extraordinaire, et c'est là la base du christianisme, c'est pas un concept un peu flou, c'est une vérité manifestée en Jésus-Christ. Hein, Jésus, celui qui est venu prendre la forme humaine, on parle de l'incarnation, et je voudrais... Tout à l'heure, ça, voilà, ça marchait. La raison principale de l'incarnation, je vais développer au fur et à mesure. Je ne vais pas vous expliquer le titre pour une fois et les points que je vais développer. Je voudrais plutôt vous amener avec moi tout au long de cette réflexion ce matin. La raison principale de l'incarnation, peut-être parce qu'il y a des gens qui nous visitent, pourquoi Jésus est venu finalement? Quel était le but? Ça a été dit dans les prières, dans les louanges, de diverses manières. Hein. Si on fête la venue de Jésus en chair et en os, dirons-nous, il est encore bien mieux de comprendre la raison et dans quel but il est venu s'incarner. Hein, quelle est la raison principale de l'incarnation? Hein, eh bien, vous l'avez imagé par cette photo, vous le comprenez, hein, cette image de droite. Hein, il est venu pour mourir à la croix. C'était là le moyen que Dieu avait prévu, le dessein que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et comment il les sauve-t-il? Ben, il les sauve, en mourant sur la croix. Et il dira aussi, donc il nous est dit ici dans Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, c'est Paul qui parle, hein, mais je crois qu'il n'était pas le seul, dont toute l'humanité est pécheresse. Hein. Donc il est venu pour sauver les pécheurs. Et c'est en cela la raison principale de l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et je rappelle ces choses, s'il y a des bien-aimés qui ne savent pas encore ces choses, sachez-le, c'est là l'essentiel. Christianisme, c'est Christ au centre, Christ qui nous réconcilie avec Dieu, Christ qui change notre vie, qui pardonne nos péchés. L'homme ne pouvait pas, par lui-même, la femme ne pouvait pas se sauver, mais Jésus nous sauve, et c'est une grâce. Mais Jésus sauve tous ceux qui se considèrent et se reconnaissent comme pécheurs. Et c'est là, je dirais presque la condition, la seule je dirais condition pour comprendre, pour être sauvé, c'est reconnaître son état de pécheur. Reconnaître son état de pécheur. Jésus le dira, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Il va dire ça, hein, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et c'est parce qu'on a compris un jour, convaincu par l'Esprit de Dieu qu'on était pécheurs, qu'on a saisi la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ quand il est mort sur cette croix. Si on pense qu'on est bien, on ne change pas. Hein. C'est vrai, hein, et on n'a pas changé. Mais bon, on le sait bien, pour beaucoup d'entre nous, nous avons reconnu notre état de pécheur. Il ne faut pas trop se fouler pour le voir. Hein. On se voit vite comment on est. Mais l'Esprit de Dieu a comme but, c'est lui qui convainc nos cœurs de péché, de justice, de jugement. Pas pour nous détruire, mais pour dire, voilà, regarde comment tu es, mais... Regarde ce que j'ai fait pour toi en Jésus-Christ. Et ça bouleverse la vie. Ça change le cœur, ça change l'état d'esprit. On n'est pas né chrétien, on le devient. Et c'est quelque chose qui est possible pour vous. Parce qu'il n'y a aucune base de mérite ou d'origine ou de choses qu'on aurait pu faire. Il y a juste reconnaître son état de pécheur. Hein, ça c'est la première diapo. C'était au cas où des bien-aimés, des gens qui nous visitent, peut-être vous dites, je ne comprends pas trop le christianisme. Mais l'essentiel c'est Christ au centre. Christ qui me sauve, qui vous sauve, si vous croyez dans ces choses. Alors on va faire un bond en arrière, on va aller un peu en arrière, on va revenir dans l'Ancien Testament, avant de revenir à Jésus-Christ. Et on va voir trois choses, les trois fonctions principales qu'il y avait dans l'Ancien Testament, en Israël, hein, dans tout ce que l'Ancien Testament nous communique. La première fonction qu'on trouve, je sais pas ce qui s'est passé, ça bug. Voilà, bon tant pis. Hein, le titre c'est « Les trois fonctions principales en Israël, l'Ancien Testament là-haut ». Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a grossi. Mais bon. Voici ici la première fonction qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'était le prophète. Le prophète. Un prophète comme Moïse. Hein, Moïse est le premier prophète, dirons-nous. Bon, je ne sais pas si c'est le premier, mais on pourrait épiloguer un petit peu, mais je ne vais pas le développer. Mais il y a certainement d'autres, peut-être, que vous connaissez dans l'Ancien Testament. Samuel, Élie, Élisée, et vous pourriez me citer tous les petits prophètes de l'Ancien Testament, tous les petits livres, Ézéchiel, etc., etc. Il y en a beaucoup, des prophètes de l'Ancien Testament. Hein, le prophète. Et dans la diapo suivante, j'expliquerai quelle était sa fonction un peu plus. Il y avait aussi l'autre, c'est quoi là, c'est qui? Ouais, mais là il est spécial ce sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur, hein, celui qui avait une fonction, c'était la plus haute fonction religieuse, dirons-nous, de l'époque. Le premier souverain sacrificateur, c'est le frère de Moïse, Aaron, et puis après son fils Éléazar, il y a d'autres qui ne sont pas devenus, hein, et bien d'autres après eux. Et on sait que lors de l'arrestation de Jésus-Christ, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait comment? Je vous fais travailler la mémoire, hein, ce matin. Caïf, pas Canif, hein, Caïf, hein, parce que quelqu'un un jour m'a dit Canif, j'ai dit non, c'est pas Canif. Pour être officialisé souverain sacrificateur, il y avait toute une pratique, tout un rituel, et l'Ancien Testament est très précis. Des fois on se dit, mais pourquoi autant de choses? Parce que Dieu est très précis dans ce qu'il fait. Et il fallait mettre du sang. Pour la première fois qu'Aaron a été institué dans sa fonction de sacrificateur, de souverain sacrificateur, il fallait mettre du sang. Et Exode 29 nous dit, tu gorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce, lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Alors on peut dire, ouais, qu'est-ce que c'est ce truc-là, hein? En fait, il y avait une raison. Il y avait une raison, ce qu'on entend, ce qu'on fait, et là où on va, il y a toute une démarche purifiée par le sang. Hein. Et après, il y avait aussi l'onction d'huile. La même démarche était faite avec de l'huile. Hein. On le retrouve dans le sacrifice d'expiation dans le Lévitique 14. Je vous épargne les lectures, on va aller sur d'autres lectures tout à l'heure. Dans Lévitique 14, chapitre 14 à 20, les versets 14 à 20, ils expliquent qu'il y avait après, c'est la même chose, mais avec de l'huile sur le bord du lobe de l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil. Hein. Et c'était nécessaire, donc le sang et l'huile. On sait très bien que ça parle de la purification, le sang qui purifie, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, dira l'Épître aux Hébreux. Et l'huile est l'image, bien sûr, de l'onction, de l'autorité et de la vie de l'esprit qui est mentionnée. Donc ça, c'était la seconde. Fonction principale que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et puis il y en avait une troisième, c'était le roi. Le roi. Hein? Quel est le nom du premier roi des Hébreux? Saül. Hein? Saül. C'est le premier roi hébreu qui va, bien sûr, on sait bien, mal finir, et il y aura une succession de rois, avec aussi un schisme, donc à un moment donné, avec les rois de Juda et les rois d'Israël. Mais on sait que beaucoup de rois ont été toujours fidèles à Dieu, et ça a été compliqué. Hein. Ces trois personnages-là recevaient l'onction d'huile en signe de consécration. Ils étaient pas juste, tiens, toi, tu fais ça, il y avait toute une raison d'être, toute manière de faire. Et il fallait qu'il soit institué ou mis en fonction avec cette onction d'huile, en signe de consécration. Je précise une chose, et peut-être je crois que je l'ai mis dans cette diapo, attendez, je regarde, oui c'est ça. Je précise une chose, c'est que c'était distinct. On ne pouvait pas être roi et souverain sacrificateur, c'était impossible. Ce n'était pas voulu de Dieu. Alors j'ai mis un pointillé à gauche parce que des fois il arrivait qu'il y ait un peu des... Des choses qui se superposaient entre le prophète et le souverain sacrificateur, mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, je n'ai pas trop le temps ce matin d'en parler. Le roi n'avait pas le droit de faire des sacrifices d'animaux. La fonction de roi était bien distincte de celle du prophète et du sacrificateur. Il n'y avait pas d'ambiguïté, c'est clair. Mais vous connaissez, et on va lire ensemble l'exemple, je vais vous lire l'exemple d'un roi, hein, qui s'appelle Jéroboam. Oui, on aurait pu prendre Saül, mais c'est tellement commun que je veux prendre un autre. Jéroboam, qui fit une maison, qui va se permettre de faire ce qu'il voulait concernant les instructions de Dieu. Et pour ça, on va aller ensemble dans le livre de un roi, premier livre des rois, au chapitre 12.
verset 31. 1 Roi, chapitre 12, verset 31. Et on va aller un peu plus loin au chapitre 13 après. Hein. Jéroboam, 1 Roi 12, 31. J'entends des feuilles qui tournent, alors j'attends que vous ayez fini. Yet. 1 Roi 12, 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu, c'est-à-dire un endroit, une sorte d'endroit où on va louer, on va adorer. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Donc déjà, il ne fallait pas faire ça, mais lui il le fait, il se permet ça. Il établit une fête au 8e mois, mais le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. C'est le roi. Hein? Voici ce que il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât aux veaux qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici un homme de Dieu, et on va voir maintenant un prophète qui arrive, dont on ne connaît pas le nom. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole éternelle, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'éternel, il dit « Autel, autel !» Ainsi par l'éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était au-dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Donc on voit bien ici, dans ce récit, qu'un roi, Jéroboam, se permet et fait ce qu'il veut. Il se dit « Je suis roi, moi, il avait le droit de vie ou de mort, on le verra tout à l'heure, il avait tout un tas de droits, et il se dit « Je fais ce que je veux ». Donc il réorganise tout, il change les pratiques que Dieu avait décidées, il se dit « Moi, je fais une nouvelle fête, je prends qui je veux », voilà, il s'affranchit de tout un tas de règles qui pensent que peut-être c'est pas... Et vous savez, c'est un peu monnaie courante dans l'humanité de faire ces choses, c'est au lieu d'accepter ce que Dieu veut, ben, on est toujours en train d'essayer de remettre tout en question, et c'est ce qui s'est passé. Et lui, il a été... jusqu'au bout de sa démarche. Et voici que Dieu envoie un prophète, hein, dont on ne connaît pas le nom, hein, et qui va exprimer quelque chose de la part de Dieu, mais c'était risqué de parler comme ça. Parce qu'il va dire des choses, et le gars, il est là, saisissez-le. Et au moment, le roi, il dit, saisissez-le. Donc, peut-être en un point de temps, je ne sais pas. Il est comme paralysé, instantanément, et heureusement, parce que sinon, c'était mauvais temps pour le prophète. Et Dieu fait grâce. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas une possibilité de faire ce qu'on voulait. Le roi, même s'il avait une autorité, même s'il avait le pouvoir de vie de mort, il ne pouvait pas se permettre ce qu'il voulait. Comme souvent un sacrificateur et comme le prophète. D'ailleurs, le prophète, on sait aussi qu'il y a des récits concernant les prophètes qui vont tourner un petit peu... qui vont être difficiles. Ça va, vous êtes avec moi? On continue? De toute manière, vous êtes dans la même salle, donc vous êtes avec moi. Hein? Le prophète, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transmettait les paroles de Dieu, hein, au peuple. C'est-à-dire comme là, ce prophète vient, il est envoyé là-bas vers le roi, vous imaginez, un petit peu, il avait été être convaincu, poussé par Dieu, et il devait obéir, il y a été, hein, et c'était au péril de sa vie. Et on voit bien qu'il a failli se retrouver en difficulté, d'ailleurs, il y a quelques difficultés par la suite. Hein. Le souverain sacrificateur, lui, il offrait des sacrifices, des prières, hein, et des louanges à Dieu. Il avait un rôle spécifique qui était la plus haute fonction religieuse. C'était la fonction la plus importante. Et en plus, il devait faire une fois par an, vous savez, cette fameuse expiation. Alors vous voyez, il a une drôle de tenue, vous le savez bien, hein, il a un pectoral avec 12 pierres, il a des épaulettes avec des pierres, il a une tiare, il a des couleurs, il a de sa robe tout un tas de choses, que ce soit les formes, que ce soit la couleur, que ce soit les matériaux, parce que les pierres elles étaient toutes différentes, il y a une portée et un enseignement qui est donné, et je ne peux pas en parler ce matin, et puis je ne suis pas sûr de me rappeler le tout. Hein. Mais lui, il pénétrait, lorsqu'il entrait, faire l'aspersion une fois l'année, l'expiation, dans ce lieu très saint,
Il pouvait rentrer lui seul, il allait faire l'aspersion du sang. Il fallait qu'il se dévêtisse de tout ça. Et il restait qu'avec le vêtement qui était dessous, qui était blanc, de fin lin, et il rentrait là, dans la présence de Dieu. C'était risqué, parce qu'il pouvait mourir sur place s'il ne faisait pas les choses d'une certaine manière. Il faisait l'expiation pour lui-même, pour sa maison, mais aussi pour tout le peuple. Et quand il sortait, il arrivait au bouc émissaire, hein, un bouc émissaire, c'est de là que ça vient l'expression, hein, il mettait ses mains sur la tête du bouc, là, en signe de transfert du péché du peuple sur la tête de ce bouc-là, l'autre il avait été sacrifié, et puis il le chassait dans le désert, comme pour dire, on se débarrasse du péché. Et c'était toute une pratique, vous imaginez tout ce qu'il fallait faire, c'était assez remarquable. Et quand il confessait sur la tête du bouc toutes les iniquités d'Israël, l'animal était chassé dans les déserts, et ça les emportait loin de la face de l'Éternel, vous comprenez que c'est symbolique toutes ces choses. Hein ? Ce faisant, en faisant ça, il sanctifiait tout le peuple. Et c'était nécessaire de le faire une fois l'année. C'était quelque chose qui devait être régulier. Hein, parce que ça le rendait acceptable pour entrer dans la présence de Dieu temporairement. Et c'était que temporaire. D'ailleurs, dans le psaume 32, par exemple, je pensais à ce passage, il est dit « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Comme, pas effacé, couvert. Et tous les sangs des animaux de l'Ancien Testament, les sacrifices, les rituels, c'était bizarre. Certains peuvent dire que c'est sanguinaire, c'est vrai. Mais c'était que temporaire, ça permettait de satisfaire, l'exigence de Dieu que temporairement. Et l'Épître aux Hébreux dira, la loi qui possède une ombre des biens à venir, c'est-à-dire que l'Ancien Testament préfigure ce qui va se passer concrètement dans le Nouveau Testament. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une ombre à venir, c'est-à-dire une ombre des choses à venir, c'est juste c'est des pratiques, on ne comprend peut-être pas tout le sens, mais ça a une portée future. Et la portée future, c'est la venue de Jésus, on va y venir tout à l'heure, et je vais terminer par ça. Lui, le roi, il régnait sur le peuple en tant que représentant de Dieu. Hein, et vous savez qu'il avait une fonction particulière. Il était général en chef, il concluait des traités, il promulguait des lois, ou avec d'autres, il les exécutait, rendait la justice, il avait le pouvoir de vie et de mort, et c'était lui. Il y avait des bons rois, il y a eu des rois assez néfastes. Alors on va revenir à Jésus-Christ. Pourquoi je développe ça? C'est juste un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais c'est bien de se le remémorer, parce que la venue de Jésus est tellement est simple à la fois dans l'incarnation, mais tellement grande dans la vérité de sa venue. Pourquoi la révélation qui est là et qui est derrière ça? Et ces trois fonctions principales en Israël, l'Ancien Testament, ça préfigurait la venue de Christ. Ça préfigurait Jésus-Christ. Et je voudrais continuer, si ça prend. Ouais. On va voir que Christ a accompli ou a assumé ces trois fonctions en même temps. Jésus-Christ a rempli parfaitement ces trois fonctions de la manière suivante. En tant que prophète, et je vais mettre la diapo tout à l'heure, hein, en tant que prophète, Jésus nous révèle Dieu et nous a transmis ses paroles. Il a révélé tout ce que Dieu est. Et on le verra tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Il va révéler qui est Dieu, il est comme le prophète par excellence. En tant que souverain sacrificateur, vous savez, celui qui avait une tenue un peu spéciale, il offre un sacrifice à Dieu, en notre nom, et est lui-même le sacrifice qui est offert. Le souverain sacrificateur, il offrait un sacrifice, une victime innocente, mais voilà, il devait se purifier lui-même, sa famille, mais aussi les peuples, et c'était un sacrifice d'un animal. Tandis que Jésus, il a été souverain sacrificateur par excellence. Il offre un sacrifice à Dieu, en notre nom, et pour nous sauver, et lui-même le sacrifice qui est offert. Et en tant que roi, il est celui qui règne aujourd'hui sur l'Église, hein, il sera bientôt le roi des rois, et on le verra aussi par la suite. Alors je vais aller assez vite maintenant, pour éviter qu'on tarde trop, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Christ comme prophète. Voici ce que dira Moïse dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 15. J'ai mis les pointillés, ça veut dire qu'on saute les passages, hein, vous l'avez compris. Il va dire, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et plus loin, il dira, je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, c'est comme si Dieu parlait, hein, au travers de Moïse ici, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai
compte. Ici, Moïse prophétise à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas dans la tête de Moïse, il ne connaît pas Jésus. Et c'est vraiment un prophète qui annonce que va venir un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et un prophète. Il ne dit pas, il y aura plusieurs prophètes. Et il y en a eu. Il dit un prophète. Hein. Ça fait qu'après la guérison du boiteux à la porte du temple, et là je fais un bond dans, dans les actes, hein, au chapitre 3, il nous est dit que comme Pierre et Jean montaient à la prière, voici qu'il y a ce boiteux qui mendie, que c'était la seule possibilité pour vivre à l'époque, pour survivre. Et puis vous savez très bien que Pierre et Jean, ils vont dire « regarde-nous », et puis lui il va regarder, et il va dire « on n'a ni argent ni or ». Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il le prend par la main droite, le gars, et puis il marche. Alors là, ça a créé une espèce d'émulation, et on peut le comprendre, dans tout Jérusalem. Tout le monde était là, et puis ce boiteux qui ne pouvait pas rentrer au temple, voici qui rentre, qui saute, qui loue Dieu dans le temple. Ça bouleverse tout le monde, et on vient aller voir. On vient voir Pierre et Jean, parce qu'on se demande comment ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et Pierre va dire ceci, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il parle de ça. Hein? Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ici, Pierre reprend cette prophétie, ce que dit Moïse dans le Deutéronome. Hein? Ça fait quand même un bond, donc il connaît. Et quand on regarde les évangiles, c'est vrai que Jésus n'est pas souvent présenté comme un prophète. C'est vrai, c'est pas souvent mentionné, mais il y a quand même quelques textes qui en parlent. Par exemple, vous savez, quand Jésus croise avec ses disciples, il croise un cortège funèbre. Cette veuve qui habite Naïn, elle est en train d'enterrer son fils. Alors, pensez bien, l'enterrement de là-bas, ce n'est pas les mêmes que nous. C'est-à-dire, ce n'est pas dans un cercueil en bois, etc. C'était plutôt sur une civière, un linceul qui était là, et on a metté en terre, en dehors de la ville. Hein. Et il croise donc ce cortège funèbre, et puis vous savez qu'il va permettre cette résurrection assez remarquable, et nous y dit que tous furent saisis de crainte, et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète. Il parlait de Jésus. Hein. La femme samaritaine, vous savez aussi, qui a besoin de repères, qui a besoin de comprendre qui est Jésus, et vous avez tout un chapitre où Jésus va parler à cette femme, et puis il va lui dire, tiens, va chercher ton mari, et elle est surprise, et lui va dire, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Quelque temps après aussi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 17, il nous est dit, vous savez, il y avait cet aveugle-là qui rencontre Jésus. Jésus va l'amener et va être guéri, mais lui, il ne sait pas qui est vraiment cet homme qui l'a guéri. Et ben, on va lui poser la question, toi, que dis-tu de lui, à l'aveugle qui a été guéri? Et ben, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Et il répondit, c'est un prophète. Et après, plus tard, il va comprendre que c'est le Messie, d'une certaine manière. Donc Jésus n'est pas souvent présenté comme prophète. Cependant, il y avait toujours l'attente dans le peuple d'Israël de la venue de ce prophète qui avait été annoncé par Moïse. D'ailleurs, après la multiplication des pains, vous savez, il nous dit dans Jean 6, 14, « Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » En parlant de Jésus. Donc, il y avait toujours cette attente dans le peuple d'Israël depuis des siècles, on attendait celui qui allait être le prophète. Il y en a eu, mais le prophète, pas un prophète parmi tant d'autres, mais le prophète de Dieu, précisément, et ça, ça les interpellait. Vous savez aussi que Jésus, un jour, va dire, dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être, de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Hein? On n'a pas l'habitude, on lit toujours les mêmes versets, et des fois on passe à côté de détails des autres, mais c'est le verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Alors, Christ, c'est vraiment le prophète. Et pourquoi les épîtres ont-elles alors évité de qualifier Jésus de prophète? On ne voit pas beaucoup de traces dans le Nouveau Testament concernant ces choses, et la question peut se la poser. Hein? car il est celui dont parlent les prophéties de l'Ancien Testament. Alors attendez, j'ai sauté quelque chose, excusez-moi. Jésus est le prophète annoncé par Moïse. Il est bien plus grand qu'aucun des prophètes de l'Ancien Testament. Hein? Et cela de deux manières. Parce qu'il est celui dont parlent les prophéties de l'Ancien Testament, déjà lui, Jésus. Et puis aussi, rappelez-vous les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein? Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et Jésus donc va exprimer la réalité de qui il est. Il était le prophète par excellence. Parce que Jésus n'est pas seulement un messager qui lui transmettait la révélation divine comme le prophète qui pendant un temps va dire quelque chose de précis que Dieu lui demande de dire à quelqu'un ou à un peuple ou à un roi, hein, mais il était lui-même la source de la révélation divine. Et c'est là la difficulté dans les épîtres d'expliquer pourquoi on n'a pas parlé de, surtout mis l'accent sur la notion de prophète qui était Jésus-Christ. Hein, dans l'Ancien Testament, ou dans les prophètes, vous savez ce qu'ils faisaient souvent, ils commençaient leur message, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Souvent ils disaient ça, hein, « Ainsi parle l'Éternel ». Vous verrez, regardez les prophéties, souvent ça va être comme ça, où l'Éternel dit, où l'Éternel a dit. Hein. Mais regardez qu'est-ce que fait Jésus quand il parle de la part de Dieu. Il dira « Mais moi je vous dis, ou en vérité je vous le dis ». Donc on voit bien que c'est pas comme le prophète, c'est plus que le prophète. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas souvent mis en avant dans le Nouveau Testament comme le prophète. Ça va ? J'espère que vous n'étiez pas trop frustré, vous suivez ? Est-ce que quelqu'un ne suit pas ? Je recommence. Alors. Christ était le prophète de Dieu par excellence. Non, il y en a qui ont crié non, hein. Je vais vous voir la sortie. Maintenant, venons au souverain sacrificateur. Vous savez, cet homme qui est habillé là, avec tout un tas de choses un peu spécifiques. Rappelez-vous, sur un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il était désigné par Dieu pour offrir des sacrifices. C'était particulier. Mais aussi, il rentrait dans le lieu saint, et il y avait l'autel des parfums. Vous rappelez, l'autel des parfums, on mettait dessus de l'encens et tout ça, il y avait tout un tas de choses. C'est quoi l'image des parfums ? C'est les louanges à Dieu et au nom du peuple. Hein ? Il sanctifiait le peuple pour entrer dans la présence de Dieu de façon limitée. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ devient notre grand sacrificateur, grand prêtre, on pourrait dire, pour changer de terme, par excellence. Si les souverains sacrificateurs devaient faire l'expiation des péchés pour eux-mêmes et celui du peuple, voici que Jésus, qui était sans péché, n'avait pas besoin de se sanctifier. La Bible dit qu'il n'a pas péché, donc il n'avait pas besoin de se sanctifier. Mais il est venu, et comme le disait tout à l'heure Alain dans l'introduction de la scène, il est venu vraiment pour nous sauver. Hein? Et la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, elle développe largement Jésus comme grand prêtre, comme grand souverain sacrificateur, le souverain parfait, et de trois manières. La première manière, c'est celle-ci. Jésus a offert un sacrifice parfait pour le péché, parfait. Il n'y a pas besoin de reproduire et de refaire des sacrifices comme il fallait faire dans l'Ancien Testament. Vous imaginez les milliers d'animaux qui sont morts, etc. Jésus n'a pas offert du sang de taureau ou de bouc, comme dira l'Épître aux Hébreux. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, dira Hébreux 10, 3, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc il faisait, mais c'était que temporaire, et c'était très limité. Ce thème, dans l'Épître aux Hébreux, est prépondérant. L'Épître aux Hébreux, elle révèle que Jésus est le souverain sacrificateur, par excellence, le parfait. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qui était souverain sacrificateur préfigurait en partie celui qui allait être parfaitement souverain sacrificateur par excellence. Dans l'Épître aux Hébreux, toujours, il est dit, il est apparu, en parlant de Jésus, une seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Vous voyez, reprenez le temps de lire l'Épître aux Hébreux, bien sûr, il faut connaître un petit peu les principes et le rituel de l'Ancien Testament. Ce thème-là, il est prépondérant dans la lettre aux Hébreux. C'est le cœur de l'Épître aux Hébreux, hein, de parler de ces choses. Et il dira dans Hébreux 4, 14, « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Là, c'était dans le temple, ou c'était dans le tabernacle, on faisait ses sacrifices, etc. Mais là, il fait mention de Jésus, qu'il n'a pas fait dans un temple, etc., physique, mais qu'il a fait spirituellement devant Dieu, pour chacun d'entre nous. Il est entré dans le ciel même, dirait l'Épître aux Hébreux, 9, 24, afin de comparaître maintenant pour nous tous, pour nous, pardon, devant la face de Dieu. Voyez-vous ? Ça, c'est la première raison qui démontre que Jésus est le sacrificateur par excellence, c'est qu'il a offert un sacrifice parfait pour le péché. Parfait pour le péché. Alléluia. Hein, ça veut dire que son sacrifice est parfait, complet, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas quelque chose à faire derrière ou refaire, etc. Non, c'est fait une fois pour toutes. Et ça, béni soit le Seigneur. Ça va, vous êtes fatigué, hein, mangez, allez respirer tout à l'heure, cet après-midi. Hein. Jésus nous conduit aussi principalement dans la présence de Dieu. Parce que il nous permet d'accéder à la présence de Dieu grâce à lui. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est parfait, saint, pur et juste, et il ne peut pas supporter le péché. C'est comme si vous prenez deux choses qui sont inconciliables, deux aimants, vous les mettez, hein, vous savez, il y a la répulsion ou l'attirance, mais c'est impossible. Et si un homme ou une femme s'approchait de Dieu un peu comme ça, il pouvait mourir sur place. D'ailleurs, regardez dans l'Ancien Testament, des fois on voit l'arche de l'Alliance, etc., qui est prise, il y en a, il soulève le coffre, il regarde ce qu'il y a dedans, il en meurt des milliers, parce qu'ils se sont permis de dire, pas de problème. Ben oui, mais c'est pas un problème, mais Dieu est saint. Et pour eux, ça a été un problème, ils sont restés sur morts, quoi, sur le carreau, j'allais dire, même s'il n'y a pas de carreau. Ouais, comprenez ce que je veux dire. Dans l'Ancien Testament, le prêtre offrait des sacrifices régulièrement, il entrait de temps en temps dans la présence de Dieu, une fois par an. C'était pas, voilà, hein. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus fut bien plus que cela. Il nous conduit continuellement dans la présence de Dieu. Si bien qu'on n'a plus besoin d'un temple. Ici, on a un besoin d'un lieu, mais voilà, le lieu n'est pas sacré, hein. C'est un lieu comme c'est un ancien relais à cheval, hein. D'accord? Donc, n'hésitez pas, hein. Mais c'est un ancien relais à cheval ici. C'est pas sacré. Mais on a besoin d'un lieu juste pour nous retrouver. On n'a pas besoin d'un temple. On n'a plus besoin d'un prêtre. Et le pasteur ou les pasteurs ne sont pas prêtres. Hein. Ils sont juste là pour enseigner ce que la Bible dit. Et ils disent, regardez qui est le grand prêtre. C'est Jésus. C'est là leur rôle. Hein. On n'a plus besoin d'un jour spécial. Même si on se réunit le dimanche, parce que c'est comme ça. Mais chaque jour, on peut s'approcher du Seigneur. Chaque jour. Et on peut aller vers le Père. Vous vous rendez compte ce que Jésus a fait? Il nous permet, il nous introduit auprès du Père. C'est une grâce incroyable. Nous, limités, faibles, pas très intelligents, pour moi, vous, c'est bien. Voilà, qui nous accepte, il permet que nous approchions de Dieu, le Père, le Créateur, l'Éternel, celui qui est illimité. C'est inconcevable avec la tête, mais par la foi, nous le croyons et nous disons merci Seigneur. Rappelez-vous la mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le tremblement de terre, etc. Mais le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui a plusieurs mètres d'auteur et qui était épais de plusieurs centimètres et s'est déchiré d'en haut en bas. Pourquoi ? Comme pour dire avant, il fallait rentrer qu'une fois l'année. Maintenant, tu peux toujours y aller. Tu peux toujours y aller parce que l'Épître aux Hébreux est très clair là-dessus. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors croyons cela, croyons-le. Et approchons-nous de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui disent « Oui, je crois en Dieu, mais je suis loin, je ne veux pas le voir de trop, parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver ?» Ben, Jésus a subi pour que je puisse m'approcher de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux le dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, Hébreux 10, 22, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, hein, la présence de Dieu, il nous introduit dans la présence de Dieu. Et c'est là, le souverain sacrificateur, c'était de faire le lien avec Dieu d'une manière particulière. Mais il est aussi, en sa qualité de prêtre, Jésus, la Bible dit, et l'Épître aux Hébreux le dit, Hébreux 9, 23, 24, Jésus intercède pour nous. Alors là, merci Seigneur. Hein. L'autre fonction du prêtre, c'était de prier pour le peuple, en fait, d'être intermédiaire pour le peuple. D'être comme intercesseur pour le peuple, pour le bien du peuple. Hein, le peuple hébreu. Ça se pratiquait, il pratiquait principalement l'autel des parfums, il brûlait des parfums, signe de reconnaissance, etc. Mais l'Épître aux Hébreux dit toujours, au chapitre 7, verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. » Pour intercéder en leur faveur. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais on va bientôt finir. Et Paul affirme la même chose. Vous savez, quand dans Romains chapitre 8, il dira « Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour nous. » Il intercède pour nous, il plaide pour nous. Alors, il y a eu des nuances, il y a des gens, ils ont dit, bon, je ne vais pas rentrer dans, on ne va pas faire de la doctrine, sinon ça va être long, sur cette notion d'intercession, certains vont dire certaines choses, d'autres vont compléter, bon, je dirais chacun de se positionner. Il est donc le souverain sacrificateur par excellence. Alléluia. Hein ? Allez, je finis avec le roi. Christ comme roi. Vous savez que les mages vont aller vers Hérode, ils vont dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Avec la Méridienne, on a regardé justement une vidéo là-dessus, et c'était fort intéressant de voir ce qui était dit. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, le roi a autorité sur le peuple. Hein, il règne. Dans le Nouveau Testament, Jésus est né pour être le roi des Juifs. Et Jésus, malheureusement, les hommes n'ont pas compris, pardon, ça. Ils ont pensé que c'était un roi comme les autres. C'est-à-dire que ce roi va venir, il va instituer sa royauté, il va être un roi terrestre, il y aura une puissance militaire et politique. C'est bon, c'est comme ça que il va venir, parce qu'on a toujours vu comme ça, donc on voit comme ça. Hein. Mais Jésus nous a dit, sachant qu'ils allaient venir l'enlever, Jean chapitre 6, verset 15, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le faire roi ? Je recommence. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. En fait, vous apercevrez, et vous en aperçoivez facilement, que Jésus a repoussé toute tentative de la part de ses compatriotes de faire de lui un roi terrestre. À chaque fois, quelques fois, à chaque fois on voit qu'il s'esquive, il ne veut pas. Hein, il va repousser ces choses-là. D'ailleurs, Jésus avait annoncé dans sa prédication un royaume, c'est vrai, il va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. Et il va parler du royaume de Dieu. Dans Matthieu, vous trouvez souvent Matthieu 13, « Le royaume de Dieu est semblable à… » Vous trouvez tout un tas de choses comme ça. Hein. Jésus va commencer son ministère dans Matthieu 4, verset 17, il va dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Alors les auditeurs, ils réfléchissent, ils disent « Ah ben voilà, le roi, il arrive, c'est lui le roi, on va le mettre en place, on va l'introniser, en plus il y a ces Romains qui nous dominent, il faudra qu'ils puissent les bouter, certainement ça va se… » Voilà, il y a toujours eu ce cheminement, hein. Même après Jésus, avec Bar Kokhba, je ne sais pas comment il s'appelait, qui a fait la même chose. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et après sa résurrection, Jésus a reçu de Dieu le Père une autorité bien plus grande sur l'Église. Donc le royaume de Jésus, n'était pas un royaume physique, un royaume politique, un royaume avec des frontières terrestres. C'était un royaume de cœur. Et le royaume de Dieu, c'est pas un royaume avec un lieu physique, mais c'est avec des cœurs d'hommes et de femmes qui reçoivent la grâce de Dieu. Hein? Et en tant que tel, il règne sur les cœurs de ceux qui veulent bien laisser le Seigneur régner sur leur vie. C'est ça le royaume de Dieu. Hein? On pourrait mettre certainement d'autres déclinaisons. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, il nous dit « Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia, hein, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Rappelez-vous, Jésus va dire aussi, alors qu'il est ressuscité, il va se montrer, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hein, et ça, on le sait, c'est quelque chose de formidable. L'Épître Paul aux Corinthiens, je vais bientôt conclure, 1 Corinthiens 15, il nous a dit « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Et après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » C'est un texte qui est assez parlant. Alors, Christ, il est le roi. Mais la Bible dit qu'un jour, il va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on le voit dans l'Apocalypse. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et bien sûr, ça parle de Jésus qui va revenir. À sa seconde venue. Le roi des rois, seigneur des seigneurs. Et là, excusez-moi le terme, ça va dépoter, hein, à ce moment-là. Ça sera un temps particulier. Et les gens prendront plus clairement conscience, ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, s'ils sont vivants à ce moment-là, Ils prendront plus clairement conscience de cette autorité sur l'Église, sur l'univers, quand Jésus va revenir sur terre, d'une manière glorieuse. Et ça sera particulier. Tremblement de terre, il y aura tout un tas de choses qui vont se passer. Ça sera assez remarquable d'après ce que la Bible peut nous enseigner. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on a été jusque-là pour venir là ? Hein ? Quelle est la raison de son incarnation ? Je conclue. Il est venu pour sauver les pécheurs, ça c'est essentiel, pour sauver chacune de nos vies. Hein ? Mais il l'a fait aussi en devenant le prophète par excellence, qui en fait va accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Le concernant, il va toutes les accomplir. Toutes les accomplir. Il va même parler de prophéties qui vont concerner l'avenir, qui ne sont pas encore accomplies. Son retour, sa seconde venue, les batailles, etc. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, n'oubliez pas que c'est une révélation que Jésus va donner. Il est venu aussi en tant que prêtre parfait. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas besoin d'être purifié, il était parfait, sans péché, mais il a accepté de se dépouiller de sa position, de sa nature, pour donner sa vie, et que son propre sang puisse nous sauver une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de revenir dessus, il n'y a pas besoin d'insister, de continuer à faire des sacrifices. Et il est venu aussi dans l'unique dessein de nous purifier, hein, faire de nous des nouvelles créatures pour intégrer son royaume. Il veut régner sur nous, non avec une main de, excusez-moi, de fer, non avec une domination. Jésus règne que sur ceux qui acceptent de dire « Seigneur, règne sur moi ». Que ma vie soit guidée par ce que ta parole dit, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et Dieu n'est pas, excusez-moi, Jésus n'est pas un homme politique, n'est pas un roi de la terre, avec sa manière d'être, et le dira Jésus d'ailleurs de certaines manières, les rois de la terre font ceci, font cela, mais il est autre, il est le Dieu d'amour et de justice, et il veut bénir nos vies. Donc on a raison de mettre toute notre foi dans la grâce de Dieu. On a raison de chercher à plaire à Dieu. Non pas pour contraindre, mais parce qu'on est convaincu de son amour et de sa grâce. Et si, pour beaucoup d'entre nous, si on n'avait pas compris ça, les gens ne seraient pas là. Mais dans quel état on serait ? Dans quel état on serait ? Alléluia, merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa vie. Et on aurait pu continuer. Bon, là, j'ai fait un peu de doctrine ce matin, mais c'est nécessaire des fois de remettre les choses à plat parce qu'il faut comprendre ces choses avec notre foi, avec notre cœur. Il faut alimenter la foi et cette confiance dans le Seigneur. Oui, jusqu'à présent, le Seigneur nous a secourus, nous a bénis, nous a aidés. Il nous montre aussi ce qu'il souhaite accomplir et ce que nous voulons le servir. Parce qu'il n'est pas là pour nous servir, on est là pour le servir. Il n'est pas là pour nous faire du bien seulement. Et bien plus que ça, nous sommes là pour faire sa volonté comme il faut. Mais parfois on est faible et petit. Aussi il nous soutient. Il œuvre pour chacun d'entre nous. Alléluia. On va prier ensemble et on va se séparer. Vous voulez bien vous lever s'il vous plaît, hein, tous ensemble. On va terminer ainsi. Dans la prière. Oui, nous fêtons Noël et nous sommes heureux de fêter ta venue. Mais nous savons qui tu es. Ta parole nous révèle la raison de ta venue. Ta parole nous révèle aussi ta perfection et tout ce que tu as fait pour nous sauver. Ce si grand salut, comme dira l'apôtre. Oui, tu nous sauves, tu nous aimes et tu nous amènes, Seigneur, vers le Père et tu nous invites vraiment à te suivre avec joie, avec foi, avec fidélité. Et dans ce monde, Seigneur, où beaucoup sont sans repère, nous avons le repère de ta parole, nous avons ta direction, ton esprit en nous. Nous te prions de nous aider à continuer à cheminer dans la foi avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des insensés ou négligents, mais nous voulons sonder les Écritures pour te connaître de mieux en mieux, te servir, Seigneur, avec un cœur toujours renouvelé. Béni soit ton nom, béni mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu as fait, ta fidélité est grande, c'est vrai. Cette année encore, tu nous as démontré tellement de ton amour, ta grandeur. Oh, conduis-nous. Conduis-nous, toi le roi, toi le souverain sacrificateur, toi le prophète par excellence. Conduis-nous dans tes voies et permets-nous d'aller jusqu'au bout de la marche avec toi. Un jour, nous te verrons face à face. Oui, tu reviens bientôt. Et nous voulons être trouvés fidèles, obéissants, vraiment te suivant et te servant de tout notre cœur. À toi la gloire. Bénis cette journée. Bénis ces temps, peut-être en famille pour certains. Permet que nous soyons, Seigneur, vraiment toujours conscients de ton amour et de ta grandeur. À toi la gloire. Amen. Amen. Voilà.